L'invité régional avec les radios chrétiennes des Pays de la Loire.
Les amis, ne nous laissons pas anesthésier par l'incertitude, ne nous laissons pas contaminer par la déploration.
Cette voix, ce discours, je vous vois, fidèles auditeurs, en train de froncer le sourcil, ça vous dit quelque chose, hein ? Eh bien oui, il s'agit d'une recommandation de Tuc Duhalderville qui est avec nous aujourd'hui. Tuc Duhalderville, bonjour.
Bonjour.
Ces propos, ils servent d'introduction à la présentation de votre dernier ouvrage, hein, Nouvelle recette de bonheur, 71 actions d'écologie humaine, paru aux éditions de l'Emmanuel. Très rapide présentation de vous, Tuc Duhalderville, je ne suis pas sûre que ça soit tout à fait indispensable, mais bon quand même, en plus d'être père et grand-père, vous avez fondé en 1986 à Bras Ouverts, qui accueille des jeunes porteurs de handicap. Vous êtes très investi au sein de l'association Pro-Vie Alliance Vita, vous êtes chroniqueur régulier sur KTO, auteur de beaucoup de livres, notamment 67 recettes de bonheur, et aujourd'hui, ce livre, Nouvelle recette de bonheur, 71 actions d'écologie humaine, qui a reçu le grand prix Laudato Si du Salon du Livre et des Médias Chrétiens de Dijon en décembre dernier. Donc voilà, c'était très rapide. Et donc, Tuc Duhalderville, vous persistez, le bonheur existe, vous l'avez rencontré.
Eh bien, je pense que je suis en train de me débattre avec comme chacun. Donc je pense qu'il est possible, il se vit en même temps que les épreuves. Vivre, c'est souffrir. C'est aimer, c'est souffrir. C'est un peu comme une ascension. Quand on grimpe au sommet de la montagne, on est heureux, on a un bonheur plénier en contemplant le paysage à mesure de la peine qu'on a pu prendre. Donc il y a un petit message derrière cette idée de bonheur, c'est que il se travaille en fait, il se travaille dans la vie quotidienne, dans les choses toutes simples, mais il n'est pas acquis une fois pour toutes et puis il est parfaitement compatible, heureusement, avec les épreuves inhérentes à chaque vie.
On pourrait avoir la tentation de rester un petit peu dans sa bulle, d'être à l'abri des mauvaises nouvelles, des chiffres quotidien des morts de la Covid, par exemple, des rapports alarmants sur le réchauffement climatique, des difficultés psychologiques et économiques qui atteignent nos voisins. Mais en fait, c'est pas la solution.
Bah ça ne serait pas totalement idiot, je parle pour moi, de me déconnecter partiellement de l'avalanche des nouvelles. C'est pas idiot parce que c'est pas forcément ça non plus la vraie vie. Si c'est pour passer à côté de ma voisine qui est toute seule, de mes enfants qui ont besoin de moi, de mon épouse puisque je suis marié, c'est un peu le risque quand même. Une société où il y a une frénésie d'infos, souvent un peu délétère, une pluie acide qui nous donne un sentiment d'impuissance et de passivité. Alors après, évidemment, il faut avoir le regard ouvert sur le monde. Et moi, je me dis un peu, mais c'est aussi en tant que chrétien, que j'aime beaucoup la formule « j'ai vu la misère de mon peuple ». Vous savez, c'est la fameuse formule du puissant ardent de Moïse. Chacun d'entre nous voit des misères à sa porte et c'est sur celle-là qu'il est appelé. Elles sont parfois d'ailleurs très lointaines parce qu'on fait des voyages initiatiques dans la vie et on va à l'autre bout du monde. Si je suis touché par les gens qui meurent de faim, eh bien je vais m'engager contre la faim dans le monde par toutes sortes d'actions. Si je suis touché par des personnes très âgées, par les détenus, par les migrants, par leur sort ou le sort des personnes concernées par le handicap, ce qui a été mon expérience, eh bien je vais aller m'engager auprès de ces personnes. Voilà. Donc entre l'information un peu indifférenciée qui nous rabougrit et puis une information précise, un visage qui m'appelle, il y avait toute la différence entre la passivité et puis la conquête d'un vrai bonheur.
Ça veut dire qu'on peut contempler cette misère et malgré tout ne pas rester dans le marasme.
En tout cas, si on la contemple, si on la regarde, si on la voit avec les yeux du cœur, eh bien c'est qu'on est appelé à quelque chose. Et là, à ce moment-là, moi, j'ai eu l'expérience avec des enfants porteurs de handicap, c'est ce que j'appelle l'expérience de l'émerveillement. Un jour, dans nos vies, quelqu'un qui n'était rien à nos propres yeux ou aux yeux de la société, resplendit d'une humanité qu'il nous fait découvrir. C'est une sorte d'expérience de la dignité humaine. Moi, ça m'est arrivé avec un enfant porteur d'un handicap. J'avais 20 ans et le bonheur est entré dans ma vie. Donc, c'est effectivement, regarder ne sert à rien s'il n'y a pas derrière une rencontre, une action, un engagement qui, seul ou avec d'autres, pas tout seul normalement, hein, et qui effectivement nous met en action. Et d'ailleurs, c'est incroyable de voir comme quand on agit, on a le cœur en paix ensuite. Quand on se couche, on se dit voilà, j'ai fait ma petite part. Bien sûr, je pense à Mère Teresa qui nous dit, faut pas regarder l'océan de misère, il faut regarder chaque goutte. Et si je peux agir sur une gouttelette, eh bien déjà j'ai l'impression d'avoir pris ma part.
Tuc Duhalderville, ce que j'ai remarqué à la lecture de votre livre, Nouvelle recette de bonheur, 71 actions d'écologie humaine, et ce que je remarque dans ce que vous dites aussi, c'est que finalement, le bonheur, c'est pas quelque chose, d'abord, qu'on acquiert une fois pour toutes, et surtout qui se construit tout seul, en fait. On ne peut pas être heureux tout seul, c'est ce que vous dites.
Non, ça c'est vrai. Vous savez que l'expérience dramatique des enfants dits sauvages, Même certains ont fait des expériences pour essayer de voir si on pouvait couper l'enfant de toute relation. On meurt si on n'est pas, si on n'a pas d'amour. Nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin d'autrui pour nous connaître. Effectivement, le bonheur est, on pourrait dire, à partager. C'est comme un repas, hein. On ne peut pas, c'est à partager. C'est avec autrui que je vais pouvoir construire une société. Bien sûr, ça part de notre expérience initiale, originelle. C'est qu'on a vécu pendant 9 mois dans le corps d'une autre, quelles que soient les relations après qu'on a pu avoir avec notre mère. Parfois, il y a des séparations et des deuils, bien sûr. Hein. Mais c'est une expérience qui dit beaucoup de l'humanité. Ensuite, nous avons été accueillis. Nous étions nus. Nous étions chacun très vulnérables. Et on a pris soin de nous. Nous sommes entrés dans une culture de l'interdépendance rien qu'en naissant. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier quand on construit ensuite sa vie. On fait semblant d'être solide, on fait semblant d'être fort. Et vient le jour où, à nouveau, une dépendance nous montre qu'on est tous reliés les uns aux autres.
Ça, on le découvre effectivement vraiment dans votre livre. Et puis, Hugues Duhalderville, il y a donc ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est je regarde et puis j'agis. En fait, on connaissait action-réaction. Et vous, vous nous proposez réflexion-action. C'est un petit peu ça.
Oui, c'est-à-dire que j'essaie toujours de me dire, c'est un peu l'idée que faut que je me méfie juste des élucubrations, de ce qui peut nous tenter parfois. Qui sont pas loin parfois du ratiocinage, surtout dans les circonstances parfois difficiles qu'on traverse en ce moment, mais se dire, voilà, faire un pas toujours, faire un pas. C'est faire un geste, faire une rencontre, poser une parole, un regard. Et tout ça, ça nous met en marche, parce que la vie, c'est aussi une marche. Puis je parlais tout à l'heure des relations d'interdépendance qu'on a avec les autres, puis on découvre aussi de plus en plus, heureusement, qu'on a des relations d'interdépendance avec le reste de la création. Avec les écosystèmes, avec les animaux, les plantes, avec l'histoire qui nous a précédés et aussi avec les générations à venir qui attendent de nous, alors qu'elles n'existent pas encore, qu'on leur lègue ce dont on a hérité, à la fois en termes d'air respirable, d'eau potable et puis aussi de repères anthropologiques hein, pour construire des sociétés. Donc tout ça, ça nous met au sein d'une grande famille humaine, bien sûr, à privilégier par la dignité intrinsèque de l'être humain, et puis aussi l'ensemble des créatures qui ont aussi mal à partir avec nous.
Et donc, quand je disais que votre livre, effectivement, nous portait à l'action, parce que pour ceux qui ne l'ont pas eu entre les mains, donc il se décline hein, à chaque fois avec une réflexion, une méditation sur quelque chose vraiment du quotidien, et ensuite un envoi vers quelque chose de très concret, c'est très pragmatique. Et par exemple, vous parliez tout à l'heure de faire le premier pas, on se retrouve tellement bien dans ce paragraphe où vous nous proposez de passer à l'action, où vous dites bien, il s'agit d'abord peut-être de lister les blocages, les encroûtements, les embourbements qui nous entravent. Bon, après, je laisse les auditeurs découvrir, mais c'est vrai qu'effectivement, on sent que c'est du vécu.
Bah, je me rends compte que souvent, moi, je prends un papier, un crayon et je note. Vous voyez, par exemple, l'autre jour, j'ai pris un papier, un crayon et j'ai noté les peines que j'avais. Et le fait de les avoir mis sur un papier, eh ben, ça a déjà déchargé une part, j'ai pris du recul, j'ai regardé, et je me suis dit, bien, là, je peux travailler sur celle-là, je peux travailler sur celle-là. Donc, c'est vrai que je plaide pour une forme d'introspection, on se pose, on se dit, voilà, où est-ce que j'en suis sur tel et tel sujet, et puis ensuite, on décide. En tant que père, d'avoir dit à mes enfants, la vraie liberté, c'est de s'obéir à soi-même. Donc, au début de la journée, je me dis, bon, qu'est-ce que je veux? Je veux passer 10 heures sur un ordi à regarder des petites vidéos, ou bien je veux faire une rencontre, ou du sport, faire un effort, lire un livre, voilà, creuser tel et tel point. Et ça nécessite donc ce double mouvement où on se pose pour mettre à plat les choses et ensuite on décide et après on agit en fonction de ce qu'on a décidé. Et du coup, on est un peu moins le bout de bois ballotté dans la tempête de toutes les interactions et notifications qui nous empêchent de conduire notre vie avec un cap.
On redevient acteur et maître de sa vie. Et alors, Hugues Duhalderville, pour aller encore un petit peu plus loin, vous avez accepté de proposer à nos auditeurs, 5 petites rencontres thématiques avec des conseils vraiment plus pratiques en fait, qu'on retrouve dans votre livre, mais de reprendre quelques-uns de ces éléments.
Ça me fait plaisir de pouvoir effectivement aller plus loin ou peut-être trouver d'autres pistes que celles que j'ai pu écrire ou de me rappeler aussi celles que j'ai pu travailler. Vous savez, en fait, c'est tout un travail de recommencement pour moi, comme pour chacun. Je suis très, très capable de faire des recettes, mais après, il faudrait que je les suive. Hein. Souvent, ma femme me le dit parfois. Elle me dit, ce serait bien que tu appliques les recettes que tu donnes. Et je dis, effectivement, j'en ai conscience. Donc, ça m'aidera, on travaillera ensemble pour essayer d'avancer encore un peu mieux dans l'humanisation de nos vies, qui est en fait le grand enjeu pour chacun.
Bah, ça peut être aussi une idée de petite chronique, des résolutions qu'on n'arrive pas à tenir.
Oui, parce que j'étudie ça dans le premier livre, sur cette recette de bonheur. Je sais que les statistiques montrent que On ne tient pas forcément ses résolutions, mais on les tient mieux quand on en prend que quand on n'en prend pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter dans la vie à en reprendre régulièrement, à reprendre des décisions. Et puis dans le courant pour une écologie humaine que j'ai cofondé avec deux autres hommes de ma génération, on propose toujours ce qu'on appelle des formations. C'est-à-dire on se forme, mais pas juste pour avoir un bagage dans la tête supplémentaire, mais pour pouvoir agir, pour transformer les choses, pour transformer le monde. Vous savez, on a tous des soucis par rapport au monde quand on le regarde. Mais une chose est de le regarder en se souciant et une autre chose de contribuer au monde qui vient, à un monde plus humain, un monde où les gens sont plus reliés, où on se respecte davantage. Et voilà, donc agir, c'est vraiment effectivement une des clés majeures du bonheur.
Merci beaucoup, Tuc Dualderville. Donc on retrouve tout ça dans tous vos livres, notamment dans le dernier Nouvelle recette de bonheur, qui a donc été primé par le Salon du Livre et des médias chrétiens en décembre dernier. Et puis donc on se retrouve très vite pour nos 5 petites chroniques. Donc merci beaucoup, Tuc Dualderville.
Merci beaucoup à vous et avec joie pour se retrouver bientôt.